Seigneur, je te remercie pour le temps qu'on a ensemble, Seigneur, ce matin, pour venir partager ta parole. Je te demande de parler à nos cœurs, puis de nous instruire, de renouveler notre intelligence, puis de nous changer dans notre vie, dans nos comportements. Nous savons que c'est pas juste entendre, mais c'est l'action surnaturelle de ta parole dans nos vies qui nous libère. Quand on réalise des choses, puis on te les remet entre tes mains, c'est là que tu agis, Seigneur, puis tu transformes, tu nous amènes à ressembler à Jésus. Puis je te remercie de ce que tu veux faire dans tout ce changement-là dans nos vies, parce que c'est pour ta gloire. Oui. Merci, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.
Amen.
On est en train de continuer la petite série qu'on fait depuis plusieurs semaines sur les 10 commandements de Dieu. Puis aujourd'hui, on est rendu au 8e commandement. Y a-t-il quelqu'un qui le sait? Juste comme ça,
ben,
non, ça c'est le dernier. C'est le dernier. C'est le 8e, c'est « Tu ne déroberas point
».
Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire, dérober?
Voler.
Voler, tout simplement, en canadien français. Il faut comprendre que quand Dieu a créé l'homme sur la terre, Dieu n'a pas voulu que l'homme soit vide de bien. Parce que même si l'homme était vide, ça y prenait une compagne, Dieu pourvu à sa compagne. Puis Dieu il avait créé un jardin pour que l'homme puisse profiter de tout ce que Dieu avait semé dans ce jardin-là, des fruits en abondance, des légumes, puis là, il y avait juste à s'en occuper, à le garder, puis à le cultiver, à reprendre les semences, par semer, puis il aurait entretenu ce jardin-là, puis il aurait profité de tous les biens, mais là, on le sait, il y a eu le péché qui est entré dans le monde, l'homme était séparé d'avec Dieu, puis il était privé de tout ce que Dieu avait préparé dans le jardin d'Éden. Puis là, il est envoyé sur la terre, puis il dit, c'est à force de peine que tu vas y tirer ta nourriture tous les jours de ta vie. Fait que les humains sont comme envoyés par Dieu à vie, puis là, Dieu leur a donné un commandement, un autre commandement qui leur a dit, parce que Dieu, même si les gens avaient péché, puis avaient désobéi à Dieu, Dieu les a quand même bénis, le couple. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez. Ça, c'est ça qui est le plan de Dieu pour les humains. Il veut qu'on ait une vision, que la vie est là devant nous, Dieu va nous ouvrir des portes, puis on va être en contrôle ou en possession de certaines choses. Ça fait partie du plan de Dieu que l'homme ait une famille, puis des biens, puis qu'il puisse vivre sa vie dans ce monde. C'est ce qu'on voit dans multiplier, remplir la terre, l'assujettisser puis dominer. Ça, c'est un genre de vas-y puis prends tout ce qu'il y a là, c'est à toi. C'est ça qui est un peu le résumé. Mais on a des règles quand même pour décider de prendre ou de pas prendre. On veut pas prendre ce qui nous appartient pas. C'est ça qui est le sujet du message aujourd'hui. Tous les biens font partie de ce que Dieu permet qu'on ramasse sur cette terre. Parce que, dans un sens, si on peut jouir de quelque chose aujourd'hui, c'est parce que c'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui l'a permis, puis on en profite. Des fois, on n'en a pas. Comme Paul, il dit, j'ai appris à vivre dans la disette, j'ai appris à vivre dans l'abondance. Mais il faut apprendre à vivre avec le contentement. C'est ça qui est le point. Puis Dieu a promis de pourvoir à tout ce qui était nécessaire pour notre vie terrestre. Il dit, cherche mon royaume, puis moi, la nourriture, le vêtement, puis ce que tu as besoin, je vais m'en occuper. Fait que Dieu, il y a une provision pour ceux qui lui appartiennent. Puis même les gens du monde qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur, Dieu les envoie quand même son soleil, puis ses pluies, ses bénédictions, met de la joie dans leur cœur, etc. On voit plein de passages qui parlent de ça, que Dieu agit pareil dans la vie des gens, même si les gens sont rebelles avec Dieu. Puis Dieu va leur montrer, mais qui arrive l'autre bord, tout ce que Dieu aura fait dans leur vie, même si c'était des gens rebelles. Dans 1 Timothée 6, 17, ça nous dit, justement pour réaliser que tout ce qu'on a vient de Dieu pour qu'on puisse en profiter. Ça dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Fait que c'est mis à la disposition des humains, puis des fois Dieu donne, puis des fois Dieu enlève. Tout dépendant de ce qu'on a passé comme cheminement, puis il y a un plan, le Seigneur, dans tout cela. Il faut apprendre à vivre dans toutes ces choses-là en utilisant ce que Dieu permet qu'on ait entre nos mains. Puis si on peut acquérir plus, que Dieu nous en donne plus, sans excéder l'accroissement de nos dettes, il faut y aller avec sagesse. On prend ce que Dieu nous donne, puis on en profite. Puis qu'est-ce qu'on fait quand on a des choses? On est béni, puis on dit, merci Seigneur pour tout ce que tu m'as donné. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont venus extrêmement riches, puis il y a des serviteurs de Dieu qui sont venus extrêmement pauvres. Dieu a un plan. Dieu donne, Dieu enlève, il faut faire confiance au Seigneur, puis s'accrocher à lui, puis dépendre de lui, puis à s'attendre de sa bénédiction. Amen. Dieu a un plan pour notre vie. Le Seigneur, dans le désir de bénir ses créatures, imposa un commandement pour protéger les biens des gens. Dieu veut qu'on acquiert, il met à notre disposition des choses, mais il est obligé quand même de mettre un commandement pour protéger les biens des gens. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont les mains longues. Ils veulent prendre ce qui leur appartient pas. Faut apprendre le respect des choses qui sont là. C'est là que dans le commandement d'Exode 20, le verset 15, il dit « Tu déroberas point. » Dérober, c'est voler. Tu prendras pas le stock des autres, ce qui t'appartient pas, autrement dit. Puis dans l'interdiction de voler, mais Dieu veut nous apprendre à respecter les biens d'autrui. Parce que Dieu peut bénir une personne, puis là, moi, je décide d'aller piger dans le stock qui appartient à l'autre sans la permission. Ça, c'est voler. Quand quelqu'un prend de ce qui lui appartient pas, c'est un vol, c'est contraire à un des 10 commandements de Dieu. Puis autant que Dieu voulait protéger nos biens, puis des fois, on se fait voler des affaires. Moi, je me suis déjà fait voler des affaires. Ça fait de la peine parce que tu as travaillé pour obtenir ces choses-là. Des fois, ça a coûté beaucoup de temps et beaucoup d'efforts pour acquérir quelque chose. Puis des fois, il peut y avoir un requin, un voleur qui arrive, puis look, il subtilise tes choses. Tu te retrouves avec rien. C'est attristant, c'est une épreuve de cette vie. Mais Dieu avait mis un commandement pour protéger ce genre de situation-là. Puis dans toutes la plupart des codes pénals sur la terre, ils ont rajouté ça dans leur loi pour pouvoir gérer que dans les pays, il y a des lois qui protègent des escrocs et des voleurs. Un des versets qui nous parle de ça, justement, pour qu'on apprenne à respecter le bien d'autrui, dans Lamentation 3, le verset 36, il dit « Quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? » Dieu veut nous apprendre qu'à chaque fois que quelqu'un fait un tort dans la vie d'un autre, Dieu le voit. Dieu est témoin de ce qui se passe. Puis le Seigneur va agir selon la justice, parce que chacun recevra selon ses œuvres. C'est sûr qu'entre nous, on peut se pardonner les uns les autres, mais Dieu, c'est lui qui est le juste juge, qu'à la fin, il va rendre les comptes. S'il y a des gens qui ont transgressé les commandements de Dieu, et tout le monde a transgressé les commandements de Dieu, je vous encourage à aller à Jésus-Christ pour recevoir le pardon de vos péchés, parce que c'est mieux de passer tout de suite en s'humiliant puis de passer par Jésus pour être pardonné que d'attendre à la fin devant le trône de Dieu puis de réaliser que les péchés nous ont tous souillé notre âme puis nous empêchent d'entrer dans le royaume céleste. On peut pas cacher rien à Dieu. Tout ce qu'on a fait depuis le commencement de notre vie, que tu aies l'âge de 5 ans, que tu voles au dépanneur, ou que tu as l'âge de 90 ans, puis tu voles au dépanneur, un vol, c'est un vol. Tu prends ce qui t'appartient pas, puis ça fait partie. Dieu veut pas. Dieu veut que tu respectes les affaires qui appartiennent aux autres. Puis là, Dieu, dans sa loi, dans l'Ancien Testament, il a donné des conséquences aux crimes que commet un voleur. Comme par exemple dans Exode 22, le verset 1, ça nous dit « Si quelqu'un dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, ça veut dire qu'il le puce dans sa possession, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. » Il devait restituer ce qu'il a volé. Puis si le voleur est surpris dérobant avec effraction puis qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. Ça veut dire que dans ce temps-là, les gens, surtout la nuit, là, que les gens essayaient d'aller voler. Puis la plupart du temps que les gens vont voler un agneau ou un bœuf, même si ça sera pour manger, c'est pas une excuse. T'as pas le droit. T'es mieux d'aller demander, puis d'attendre qu'il te le donne ou qu'il te partage son repas, que d'aller le prendre sans la permission. Mais si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Puis s'il se fait pincer avec le stock des mains, puis il n'y a rien pour remettre, parce que là, il dit qu'il faut qu'il en remette 5 bœufs ou 4 agneaux, mais il sera vendu pour son vol. Ça veut dire que cette personne-là, elle devenait l'esclave de quelqu'un qui l'achetait, qui payait sa dette, puis elle était obligée de travailler pour lui jusqu'au remboursement de ses dettes. Puis ça dit, s'il a dérobé un bœuf, un âne, un agneau, se trouve encore vivant entre ses mains, mais il fera une restitution au double. On voit que quand même, Dieu était juste. Puis il ne voulait pas laisser le coupable pour innocent, puis il fallait que le gars assume les conséquences de son vol. Comme tous les péchés d'ailleurs, peu importe le commandement qu'on transgresse, les humains vont avoir à assumer des conséquences pour chacun des commandements. Une autre place aussi que la parole de Dieu nous parle de vol, ça a été démontré que le vol était aussi dans les affaires. Comment ça? En exemple, deux poids, deux mesures. Là, je vais vous lire le passage, après ça, on en regardera ensemble. Deutéronome 25, le verset 13. Ça nous dit, tu n'auras pas dans ton sac deux sortes de poids, un gros et un petit. Tu n'auras pas dans ta maison deux sortes d'effets, un grand et un petit. Tu auras un poids exact et juste. Tu auras un effet exact et juste, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Fait que Dieu, il veut pas qu'on fasse de fraude dans les affaires. Puis on va le voir un peu plus loin, il en parle même dans le Nouveau Testament. Que dans l'Ancien, il y avait un jugement, comme dans le Nouveau aussi dans ce passage-là, on va le voir tantôt, il y a un jugement pour ceux qui fraudent le prochain. Frauder, là, dans le sens d'avoir deux effets ou deux unités de mesure. Tu dis, tiens, je te vends une livre de beurre, mais il y en a un trois quarts d'une livre dedans. C'est parce que là, il pesait ça qu'une balance, puis un poids d'une livre, mettant une livre de beurre, c'était égal. Mais s'il met un poids de trois quarts de livre, puis il fait passer ça pour une livre, c'est ça d'avoir deux mesures, puis commencer à tromper les gens, ou ton effet, qui est une unité de mesure comme un récipient. Puis là, tu dis, je te vends un effa de blé, t'en as une quantité, mais c'est un effa plus petit. Là, t'en vends moins pour le même prix. Tu trompes les autres. Fait que c'est un vol.
C'est ça que le gouvernement fait avec le fromage et tout. Ça reste au même prix, quand c'est en spécial.
Oui, mais c'est quand même écrit la vraie quantité sur le paquet. C'est pas pareil. Si tu dis à quelqu'un que t'as trois quarts de livre, que ça soit écrit trois quarts de livre, si tu veux être juste. Tu trompes pas personne, dans ce temps-là, le poids est écrit. Mais si tu dis que c'est une livre, puis en a un, trois quarts de livre, c'est un vol.
La justice
des hommes, des fois, il y a deux poids de mesure. C'est dur d'être égal avec tout le monde, parce que chaque juge marche selon son libre arbitre. Puis des fois, la sentence, ça peut être passible jusqu'à 15 ans, mais il n'est pas obligé de donner 15 ans de prison. C'est jusqu'à, il peut donner qu'un an, 5 ans, c'est lui qui décide à sa discrétion. Fait que c'est pas une injustice comme telle, c'est la loi qui dit ça de tel à tel. C'est ça, exact. Il y a des conséquences, il y a des circonstances atténuantes. Y a-tu un passé plus gros dans un plus gros dossier, etc. Il y a des injustices dans le jugement de la loi terrestre, c'est vrai. Parce qu'il y en a qui n'ont pas été jugés justement pour leur crime, mais le jugement des hommes, c'est une chose, même si tu seras en règle avec le jugement des hommes, ça ne veut pas dire que tu es en règle avec le jugement de Dieu. Puis Dieu va faire rendre compte pour les mêmes actions, à faire face à la justice des hommes et à la justice de Dieu. Puis il est important d'arriver à l'autre bord, pardonner. Dans certaines choses, mais des fois, c'est...
Quand t'as rien, pour faire attention aussi, parce que c'est bien dit dans la Bible,
servir de la même mesure.
Exact.
Pour nous juger.
C'est ça.
Nous avons.
Exactement.
Fait que si on est facile à juger, ben attention.
Oui, si on est facile à juger, si on est comment, gratteux, là, puis on est toujours en train de donner avec la petite portion plutôt que la grosse portion, parce qu'on mais on va se faire, on va recevoir comme qu'on a semé. Un peu. Mais il n'a jamais existé en fin de compte, c'est juste une légende. OK, puis là, les poids, il faut avoir la mesure exacte, puis Dieu amenait en jugement les gens qui est accroche dans les affaires. Qu'est-ce qu'on voit? Il dit, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Autrement dit, vis tout croche, puis ça se peut que tes jours soient rétrécis. C'était le jugement de Dieu dans ce temps-là. Dans Michée 6, 11, nous parle aussi de ce passage-là. Ça nous dit, est-on pur avec des balances fausses? Est-on pur avec des balances fausses, avec de faux poids dans le sac? Peut-on dire qu'on est juste, qu'on est pur, quand on marche tout croche dans la fraude avec notre prochain? C'est pour ça qu'il donne des enseignements comme ça, pour qu'on rajuste nos pensées, pour faire attention dans nos manières, on fait des affaires avec les autres. Il faut être juste. C'est ça le prix, on paye. T'as une entente, tu dis à l'autre, c'était le prix, mais t'as une entente, tu suis ton entente. Il faut être juste. Dieu aussi nous met en garde dans sa parole, dans l'Ancien Testament, en ce qui concerne du matériel volé. Dans Proverbes 29, 24, ça dit, « Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. » Il entend la malédiction et il ne déclare rien. Fait que celui qui partage avec le voleur, c'est celui-là qui partage. Le voleur est allé chercher le stock, puis l'autre, t'as un chum, il partage. Merci, là, tu m'as donné plein d'affaires, c'était du stock volé. Il dit, il est ennemi de son âme. Puis il entend la malédiction. C'est à quoi la malédiction? C'est les jugements de Dieu sur le vol. Puis là, il déclare rien. Il se tait. Qui dit rien, consent.
C'est vrai.
Qui dit rien, consent. Ça veut dire, tu es au courant que c'est un fraudeur, un voleur. Il te donne de son stock. Il t'en fait profiter. Tu l'acceptes. Puis là, tu te tais. C'est pour recevoir des présents pour devenir aveugle, autrement dit. Pour se taire sur la situation. On se fait payer par des biens. Le gars, un exemple, vend de la drogue, fait de l'argent, il te donne une part de ses profits, puis là, toi, tu dis pas un mot, puis t'es content. Mais ça nous dit que il est complice, veut pas, même s'il a pas vendu, le matériel volé, c'était des choses qui étaient interdites, c'est de l'interdit dans la vie d'une personne. Un autre point qui est la pire forme de vol qui peut pas exister. Pardon? Ça, c'est une autre affaire. C'était pas ça le pire parce que ça, c'est des récompenses. Si tu travailles pas pour Dieu, ton temps est pas investi pour l'œuvre de Dieu, tu perds des récompenses. Tandis que la pire forme de vol, ce que Dieu voulait protéger, par-dessus tout, puis il a protégé ça dans d'autres commandements, c'est la vie des autres. Quand une personne enlève un enlèvement, un kidnapping, là, il prend la personne, il la vole de où ce qu'elle est, il l'emmène chez eux, puis après ça, soit qu'il en profite, soit qu'il la met à mort, soit qu'il demande des rançons. C'est un vol d'une personne. Ça a des conséquences graves, là. Premièrement, ça détruit des familles, ça va marquer des gens. C'est bien plus pire que de se faire voler sa chainsaw. Moi, je me suis fait voler ma chainsaw, ça m'a fait un petit quelque chose dans mon cœur. Quand ça m'a fait de la peine. Une chainsaw qui a de 650$, ça fait un petit... Mais si tu fais voler ton enfant, là, puis là, il y a des abus sexuels, puis tu sors d'affaires, puis où il est mort, il y a de quoi, là... C'est grave le vol de personnes. Puis on voit dans l'Apocalypse qu'il y a un verset qui parle de Babylone la Grande et de tous ces trafics qu'elle fait. Puis elle fait des trafics de corps et d'âmes d'hommes. Ça veut dire que des gens qui sont pris, sont enlevés pour en faire, mettons, des esclaves sexuels, ou pour en faire des femmes dans les pays des musulmans, comme il s'est passé avec les jeunes filles, ou pour en faire des esclaves qui travaillent pour eux autres, pour pendant, avant qu'ils réussissent à s'en sortir, des fois, ça, c'est des 10 ans, 20 ans, 30 ans en esclavage, puis à se faire battre, puis à se faire... Puis ça, c'était... Les Juifs sont fait enlever, ils sont fait... Même si c'est la guerre, c'est pas quelque chose de réjouissant, en parenthèse. Deutéronome 24, le verset 7, ça nous dit, si on trouve un homme qui est dérobé l'un de ses frères, ça veut dire qu'il a volé un de ses frères, l'un des enfants d'Israël, puis qu'il en a fait son esclave, ou qu'il l'ait vendu, ce voleur sera puni de mort. C'était la peine de mort pour un kidnapping dans ce temps-là. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Quand je vous disais, c'est quelque chose de terrible. Dieu veut protéger. On a vu qu'il y a des commandements pour protéger la vie. Il y a des commandements pour protéger les familles. La vie, c'est tu ne tueras point. Mais la famille, tu ne feras pas d'adultère. Protège ta famille. Puis alors, on parle de vol d'âme ou de corps d'homme, de se faire kidnapper et devenir esclave, etc. Mais c'était reconnu comme dans les jugements de Dieu. Puis Dieu nous avertit de ces choses. Puis dans la parole de Dieu, dans les proverbes, ce que j'aime beaucoup, c'est que dans les proverbes, il y a des passages qui nous parlent de sujets comme ça, comme j'ai parlé dans les proverbes la dernière fois sur les adultères, puis Dieu avertissait quelqu'un qui est allé vers une femme adultère. Mais il y en a un proverbe, justement, qui parle de la méchanceté. Dans le proverbe 1, le verset 10, ben, j'espère que j'ai la bonne référence. Dieu nous donne des avertissements de s'éloigner des méchants ou des voleurs. Ça me dit, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons-les tout vifs, comme le séjour des morts tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Viens avec nous, t'auras ta part. Ouais, complice, puis avec des belles promesses de t'enrichir. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. Voyez-vous les avertissements qui sont écrits dans la parole pour pas embarquer dans la complicité de voleurs. Mais c'est à tous les niveaux, ça, là. Il y a des voleurs qui vont jusqu'à tuer du monde. Il y en a d'autres, c'est juste des vols de sacoche. Mais c'est quand même considéré un vol avec violence, un vol d'une sacoche. Le gars qui rentre dans ta maison quand il n'y a personne, puis, ou dans ton garage, puis il prend ta chainsaw, personne n'est comme blessé. Mais quand tu frappes du monde, là, puis tu voles sa sacoche, puis ça crie, puis il y a une bataille qui prend, puis là, tu te fais battre en plus... Là, c'est des scènes horribles. C'est ce que dans ce verset-là, ça nous dit. Ça dit qu'on va tendre des pièges. Ça veut dire qu'on va faire un guet-apens pour réussir à les capturer. Puis une fois qu'ils ont tombé dans notre piège, on y donne la claque, puis on verse du sang, puis on ramasse tout le butin. Mais ça a l'air alléchant de s'enrichir en prenant des raccourcis, parce que c'est pas la méthode que Dieu veut qu'on utilise pour acquérir des biens. Dieu veut qu'on travaille de nos mains pour qu'on ait de quoi pour manger puis de quoi pour être capable de donner aux autres. Amen. 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 Fait que même s'ils nous font des promesses d'un enrichissement rapide puis qu'on soit des vrais chums, parce que là, on va faire rien qu'une bourse. On est des vrais chums. Parce qu'il y en a qui font des alliances pour le crime. Il y a du crime organisé. C'est un crime... organiser ensemble du monde, qui s'unissent ensemble pour vendre de la drogue, faire des vols, puis etc. Là, Dieu nous dit, mets-toi pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier, sauve-toi de là, ça presse. Une personne comme ça, t'es mieux de pas la fréquenter. Parce qu'il y a des conséquences de la part de Dieu. On le voit au verset 18. Et eux, contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches, c'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Parce que quand quelqu'un essaie d'accaparer les choses des autres, c'est de la cupidité. Ton cœur est cupide. Il est avide de bien. Il veut posséder les affaires des autres. Il est prêt à tuer pour le faire. Mammon, c'est les richesses. Ça symbolise les richesses. Mais c'est pas nécessairement la cupidité. La cupidité, tu peux être cupide sur des biens matériels, cupide sur l'argent, cupide sur la possession. Mais puis là, la cupidité, c'est que t'as le désir tout le temps d'acquérir. Puis là, à ce niveau-là, c'est d'acquérir en versant du sang, en tuant du monde, en tendant des pièges, puis en essayant. Mais en réalité, Dieu dit, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. Ceux qui agissent comme ça, il dit, détourne-toi de là, parce que tu vas mourir, tu vas périr. Puis en plus, à ton âme, ça dit, c'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ils sont peut-être en train de tenter un piège genre, pour essayer de capturer du monde, pour voler le stock, mais c'est leur âme qui est capturée, parce que le péché les a capturés, puis ils sont captifs, puis ils s'en vont dans le séjour des morts, à moins qu'ils se repentent de leurs choses, parce que Dieu, dans sa miséricorde...
Si je regarde des films comme ça, il y a vraiment un film...
Sûrement.
Pourrais-tu être influencé...
À voler? Celui qui a un arme, même si tu écoutes une histoire policière, je pense pas que ça va te donner le goût de voler, là, soit un vol dans l'histoire policière.
Quand le germe est déjà dans toi, si ça te donne le goût.
Il y a des émissions là, qui donnent toutes les manières qu'elles veulent faire.
Ben là, ça, c'est la pire affaire à faire. Ils donnent des trucs aux méchants. C'est comme aller en prison. Mais c'est comme aller en prison. S'il y a bien une école pour le crime, c'est direct en prison. Tu veux qu'ils apprennent plus, là, il va y avoir tous les trucs là-dedans. Mais c'est sûr qu'on est environné de ces choses-là. Toutes les gens qui ne connaissent pas Dieu étalent les choses qu'ils ont dans leur cœur. Fait que sur Internet, tu peux avoir les cours de n'importe quoi, puis c'est l'abondance du cœur qui parle, puis tu vois la corruption à grandeur de la planète. Oui. Oui, il faut veiller sur nos âmes de ne pas être tenté. Parce que c'est bien tentant des affaires, c'est tolérance zéro. Tu peux pas faire à semblant de regarder de la nudité. Tu vois un film qui est un voleur, il vole, il se fait arrêter par la police. Bon, là, tu l'as regardé, ça t'a pas fait que t'es complice, puis ça peut-être que ça te donnera aucun intérêt à vouloir faire la même chose. Mais regarder de la pornographie, là, il n'y a pas du faire semblant, c'est de la pornographie, ça, c'est tolérance zéro. Un autre point qu'il faut regarder, comprendre. Qui est-ce qui est en arrière d'être un voleur? Qui a été caractérisé comme étant le voleur? Le voleur, Satan, le diable. Ça, c'est Jésus lui-même qui le dit dans Jean 10:10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il sème la destruction sur son passage. Puis c'est qui, ce voleur-là? C'était le diable. Jésus voulait parler. Qu'est-ce que le diable vole présentement? Les âmes. Parce que les âmes appartiennent à Dieu. Tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu. Mais les gens, sans s'en rendre compte, parce qu'ils sont ignorants de ces choses, ils sont sous la domination du diable, ils sont esclaves du diable, et le diable les emmène avec eux, avec lui, dans l'étang de feu éternel. Par ignorance, les gens ne savent pas qu'il y a une manière de s'en sortir. Ils ne savent pas que Jésus-Christ a tout accompli. Donc, le voleur, il vient pour dérober, égorger et détruire les gens. Il les amène captifs directement dans les temps de feu. Puis qui c'est qui lui vole les premières choses? C'est les promesses de Dieu. Dieu promet la délivrance, il promet le cadeau de la vie éternelle, il promet plein de choses, puis les gens se font voler les promesses de Dieu, puis les voient plus. C'est ce qu'on voit, la semence qui est tombée sur le long du chemin. Ça dit que les oiseaux vinrent du ciel, puis la mangèrent. Puis ça, c'est quand il donne son explication sur ces oiseaux-là, il dit « Satan vient enlever ce qui a été semé dans leur cœur. » Il avait reçu la parole, il l'avait dans leur esprit, puis ça n'a pas pris grand temps que le diable est venu enlever. Les oiseaux du ciel, c'est les oiseaux un peu du monde invisible, le diable et ses démons. Puis avec lui, il change les pensées des gens, puis il vole tout ce qui a été semé. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Puis moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Gloire à Dieu! Y a-t-il une comparaison entre le diable et Jésus? On a tout à gagner, la vie et la vie abondante. Gloire à Dieu. Lorsqu'on vole, chrétien ou pas, parce que ce verset-là, il était dit aux chrétiens, lorsqu'on vole, nous donnons accès au diable dans notre vie. Si on voit ça dans Éphésiens 4, 27, ça dit, ne donnez pas accès au diable. Suite à ce verset-là, il dit, après ça, que celui qui dérobait ne dérobe plus. Ça veut dire, quand tu voles quelque chose, tu dérobes. Le mot dérober veut dire la même chose que voler. Quand tu voles, tu donnes un accès au diable dans ta vie. Le diable, il va agir, il va rentrer dans ta vie, dans tes pensées, dans tes manières d'agir, puis il va t'utiliser. Je vais en parler. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner ce qui est à celui qui est dans le besoin. Fait que Dieu, il nous le dit, donne pas accès au diable, va travailler, ramasse-toi des choses, puis donne à celui qui est dans le besoin. Essaye pas d'aller voler pour donner. Oh, je pourrais en donner plus. Laisse faire le donner plus. Donne ce que tu vas ramasser, c'est correct. C'est suffisant. Essaye pas de dérober, tu donnes accès au diable. Puis lorsqu'on travaille, parce que là, on parle là de travail, on est en train de travailler pour être capable de donner à celui qui est dans le besoin. On doit faire attention de ne pas penser que les biens de notre employeur nous appartiennent. C'est arrivé. Les employés, ça fait 20 ans qu'ils travaillent à la même place, ils utilisent tout. Des fois, on prend des affaires, on sort nos poches, mais ça vient, c'est la compagnie qui a payé ça, c'est pas à nous. On s'est mis là à notre disposition pour le travail, pas pour amener ça chez nous. C'est tellement facile de s'habituer. Hein? Si ton boss te donnait la permission, ben là, tu ne l'as pas volé, il te l'a donné.
Et même à ça, si ton boss...
Ah oui, c'est ça, oui, c'est ça, là, il faut faire la nuance. C'est ça. Oui, c'est ça, oui, exactement. C'est ça. Il faut que ça soit le propriétaire qui donne la permission et non pas un superviseur ou un boss de... parce qu'il y a différents niveaux de boss. Parce que pas à nos patrons, c'est aux propriétaires de la compagnie. Il n'y a aucun patron qui a le droit de disposer du matériel qui appartient au propriétaire. C'est aux propriétaires qu'il faut faire affaire, sinon on est un voleur, on donne accès au diable, puis là, notre vie, il ne faut pas penser qu'on est sa bénédiction. Fait que là, il nous dit dans ce passage-là, dans Tite 2.9, « Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, » à n'être point contredisant, à ne rien dérober. Faut que tu dises aux serviteurs de rien dérober. Ils n'ont pas le droit de voler le maître, leurs employeurs. Mais toujours montrer une parfaite fidélité afin d'honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Parce qu'on a un témoignage à donner où ce qu'on est. Si ça ne nous dérange pas de passer pour un voleur, c'est une chose. Mais quand ça l'affecte le nom de Dieu, parce que tu es aussi un représentant de Dieu, c'est grave. Parce qu'après ça, le monde te regarde. C'est ça des chrétiens? Des voleurs? Je peux vous conter l'histoire de quelqu'un que je connais intimement, que lui, il est arrivé une bad luck. Il avait le plancher dans un endroit public, puis il avait une petite flaque d'eau, puis il avait oublié de mettre le compte. Il n'en trouvait pas de compte, il n'avait pas de compte pour dire au monde de faire attention. Il a glissé. Une personne a glissé, pas lui, mais une femme en talon haut, a glissé, puis là, elle voulait poursuivre l'hôpital. Fait que lui, c'est un personnage-là qui est un chrétien. Lui, il avait peur à sa job-là. Lui, il dit sa tête était là, c'était sûr là, qu'il passait. Puis, entre-temps, il continuait à travailler. Puis là, il était dans une période, là, se checker par ses boss, là, parce que là, c'était grave, qu'est-ce qu'il a fait là. Puis, une personne a été blessée. En travaillant, il passe l'aspirateur d'un bureau. Il trouve un petit diamant à terre, qui traîne à terre dans un bureau. Il pogne le petit diamant, puis il le met sur le bureau de la madame. Ah, je pense qu'il a été porté directement.
Parce qu'elle avait passé un message comme quoi qu'elle avait perdu un, puis là, lui l'a trouvé.
Ouais. Il a été porté en main propre. La madame, là, elle a félicité cet employé-là, a été voir son patron pour féliciter son patron, son superviseur, que lui était juste, puis il était honnête, c'était une bague de mariage, je pense, quelque chose de même. Quelque chose d'important pour la madame, puis le petit diamant qui était plus là, puis d'avoir trouvé un diamant là dans, tu poses l'aspirateur, il y en a bien qui pourrait dire, ouais, okay, mais ça en mes poches, personne ne l'a reçu, lui, il est allé, il a reporté, puis ça l'a remonté, il était bien vu, puis c'est pas arrivé qu'une fois. Chaque fois qu'il trouve de quoi, il le remet sur le bureau. S'il trouve un 2$ dans l'allée d'un grand centre d'achat, là, tu demandes pas c'était qui. Mais si c'était dans un bureau en train de passer l'aspirateur, il y a un employé qui travaille là, puis le 2$ d'à côté de sa chaise, il le met à la table. Mais un endroit public, tu peux pas savoir c'est qui. Si tu dis, c'est qui a perdu ce 20$-là, là, un qui en a deux qui lèvent la main, là, tu vas, ils vont dire, donne-moi le numéro de série, je te le donne. Et là. Une autre place dans la parole, dans le Nouveau Testament, ça nous dit que nous sommes avertis de ne pas frauder le gouvernement. Ça dit dans Romains 13, 7, « Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, puis l'honneur à qui vous devez l'honneur. » Mais on doit payer, rendez à César ce qui appartient à César, puis à Dieu ce qui appartient à Dieu.
Fait que
Ils sont fraudeurs. C'est un péché de vol. Puis on donne accès au diable, puis là, notre vie, ça marche plus. Ouais, déclarer deux adresses pour récolter deux chèques, des affaires de la main, toutes sortes de fraudes possibles. Dans la Bible, c'est écrit que dans la fin des temps, les gens seraient ingénieux au mal. Fait que des nouvelles idées, comment frauder puis détourner des fonds, puis tout ça. Il y en a à tonnes, mais nous, à cause qu'on connaît Dieu, qu'on connaît sa parole, on veut être honnête. Amen. Nous sommes avertis du jugement de Dieu envers les fraudeurs. Dans 1 Thessaloniciens 4-6, dans le Nouveau Testament, il dit, c'est que personne n'use de fraude, que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Fait que, marchons by the book, marchons honnêtement, n'essayons pas. Puis même des fois, t'acceptes même d'une injustice, pour être sûr qu'il n'y ait pas de fraude envers la personne. Ça m'est déjà arrivé au début de ma vie chrétienne. Je vends un char à quelqu'un. C'est un char qui valait 3 000 à un frère. Je fais un papier, puis j'y dis, puis je l'écris sur le papier, Le char, il y a une valve qui claque, puis je te le vends 1 500 $ à cause de ça. Je vends le char, il s'en va avec. Il revient une semaine après. Là, j'étais au garage, puis le garage me dit ça coûtera 600 $ le réparer, puis tu vas être obligé de me repayer 600 $. J'y ai payé 600 $ à temps par mois, là, puis cet argent-là. J'ai remis 600 $ juste pour pas qu'il pense que je l'ai fraudé. J'y avais dit, mais pour pas faire de trouble, tu règles ça. Pour acheter la paix. Les évangiles nous parlent des conséquences tragiques des voleurs. D'un voleur en particulier. Vous allez voir, quand on donne accès au diable, qu'est-ce qui se passe après quand t'es embarqué là-dedans? Il y a des conséquences tragiques, des enchaînements dans les péchés. Dans Jean 12, 5, on voit Judas, qui était un des 12 apôtres choisis par Dieu, puis là, Jésus, il arrive dans une situation, puis il y a une femme qui avait pris son parfum, puis elle avait brisé son parfum, elle verse du parfum sur Jésus. Jésus a béni cette femme-là, puis il dit, on va parler de toi jusqu'à la fin des temps, autrement dit. Puis, Judas, ça c'est Jean 12, 5, il dit, pourquoi n'avons-nous pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait ça non parce qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, puis que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Fait que qu'est-ce qui se passe quand t'es voleur? Tu donnes accès au diable. Qu'est-ce qu'il a fait? La tentation de l'argent, la cupidité en bac, t'en veux toujours plus. Ceux qui sont pris à la commission Charbonneau, là, puis il y a des fraudes de millions de dollars, puis des enveloppes de 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, là. Ça n'a pas commencé à ce niveau-là, là, du jour au lendemain. Ça a commencé avec des petites affaires. Eux, c'est une petite affaire. Rajoute donc ça, un petit contrat, un petit ci, un petit ça. Après ça, c'est rendu, c'est des grosses affaires. Fait qu'un péché en entraîne d'autres. Judas, lui, était voleur. Puis il fouillait dans la bourse. C'est lui qui portait la bourse du groupe. C'était pas son argent. C'était l'argent du groupe. Il fouillait dedans pour dépenser comme lui décidait. C'est comme si ça serait un conseil d'administration d'une église qui administre l'argent de l'église puis qui commence à fouiller dans le pot pour faire des dépenses personnelles. C'est un vol. Puis je sais que c'est déjà arrivé. Puis j'espère que ça n'arrivera plus. Je parle pas ça pour ici, là. Je parle ça en général. Oui. On vient tellement habitué qu'on pense que c'est à nous autres. L'église, là, ici, elle appartient au Seigneur. Elle appartient pas au conseil d'administration. Ils sont là pour administrer ce que Dieu leur a prêté. Tout ce qu'on a est prêté. Il faut vivre avec des choses prêtées, puis d'en faire attention. Jean 13, 2, qu'est-ce qui s'est passé comme conséquence tout de suite après? Là, je venais de vous lire Jean 12, 5. Là, il dit, on aurait pu vendre ça 300 deniers. On aurait eu de l'argent à 300 deniers. Ça valait la valeur d'un salaire de 300 jours de travail. Il travaillait pour un denier dans ce temps-là. C'est un salaire d'un an, là, qu'on a dans la poche. On serait-tu bien à avoir ça dans nos poches? Là, il n'avait pas eu cet argent-là, puis il en voulait de l'argent. Il avait une faim d'avoir de l'argent. Il fallait qu'il fasse une pause. Il avait besoin d'argent. C'est ça, la cupidité. Tu as besoin. Oui, ça devient comme un... Tu es possédé par cet esprit-là qui t'emmène à en vouloir plus. Tu donnes accès au diable, tu te donnes une ouverture de vouloir frauder puis de faire des choses croches. Tu en veux toujours plus. Dans Jean 13, 2, qu'est-ce qu'il y a eu comme bonne idée? Pendant le souper, Judas, il a eu des pensées. Pas qu'il a des pensées, il a eu des pensées. Lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Le diable, il a donné accès au diable. C'est un voleur, il volait. Il y a une passe qui manque, il y a le 300 deniers, il l'a pas eu. Il veut en avoir plus. Le diable, il a shooté une belle idée. Vends Jésus, tu vas faire de l'argent. Il a juste inspiré. Mais le diable avait déjà une emprise dans Judas. Jésus le dit, l'un de vous est un démon. Parce que le diable est en lui. Pourquoi? Parce qu'il ne se repentait pas de son péché. Il aurait fallu qu'il se repente et qu'il arrête ça. Parce que tu ne peux pas pratiquer un péché volontairement et penser qu'il n'y a pas de conséquences. Pendant que tu le pratiques, tu es déjà lié par un esprit et ton péché. Faut que tu sortes de là, là. Faut que tu arrêtes ça. Faut que tu confesses ça à Dieu. Tu demandes de te pardonner, c'est une chose. Puis libère-moi de ça. Délivre-moi de mes chaînes, mes liens, puis des accès. Ferme les portes que le diable utilise. T'es pogné, là. Mais là, il y a eu l'idée. Qu'est-ce qu'il a décidé? Le vers 13, au Jean 13, 27. Dès que le morceau fut donné à Judas, et Jésus a donné des morceaux de pain. Satan entra dans Judas, puis Jésus lui a dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Jésus savait. Il a donné, « Celui à qui je donnerai le morceau trempé, c'est lui qui va me livrer. » Il a donné le morceau, il trempe son morceau de pain dans son verre de vin, puis il donne ça à Judas. Judas reçoit le pain, sous que Satan rentre en lui, puis il est allé livrer Jésus pour 30 pièces d'argent. Puis après ça, on voit qu'il s'est repenti de son geste, mais sans se repentir de la façon biblique. Sa repentance, c'est qu'il regrettait, ça le tourmentait. Tu peux pas être dans la paix de Dieu pendant que tu es voleur, ou comme n'importe quel autre péché. Si on pense qu'on est en paix pendant qu'on est en train de pécher, c'est pas la paix de Dieu, c'est un buzz d'adrénaline ou de pilule que tu es en train de prendre, parce que l'Esprit de Dieu, c'est quand tu marches dans l'intégrité, dans la justice, que là, tu vas être rempli de l'Esprit, pas quand tu pêches. Fait que, là, il a reçu le morceau, il est allé le vendre, il a eu l'argent, il a regretté ses gestes, mais il était trop tard, il s'est pas repenti de la bonne façon, il est allé se pendre. C'était fini pour lui, la Bible l'appelle le fils de la perdition. Quelles sont les conséquences des voleurs? Mais si on ne se repent pas, on finit la même chose que Judas. Le fait de respecter les biens d'autrui fait de nous que nous marchons dans l'amour. Quand Jésus a parlé des commandements dans Romains, non, c'est Paul qui a parlé de ça, dans Romains 13, 9, il dit, en effet, les commandements, tu commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu déroberas point, tu ne convoiteras point, puis ceux qu'on peut y avoir en cause, se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand tu vis des commandements, là, puis tu veux faire ce qui est là, tu es en train de pratiquer d'aimer ton prochain comme toi-même. Ça vaut la peine, parce que Jésus nous le demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Si on veut y arriver, gardons ces commandements-là. Sinon, si on est voleur, qu'est-ce qu'on fait? On n'est plus en train de pratiquer d'aimer notre prochain. On est en train de le voler. On est en train de détruire sa vie. On a des conséquences dans la nôtre. Puis il n'y a pas la communion d'esprit qui est supposée d'avoir. Puis n'oublions pas, c'est le dernier verset, le jugement final, qu'aucun voleur n'héritera du royaume de Dieu. On voit ça dans 1 Corinthiens 6, 10, qui dit, « Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs. » Les ravisseurs, c'est pas mal comme un voleur, mais il faudrait le voir en grec, là. « N'hériteront le royaume de Dieu. » Pourquoi qu'on marque ça? Mais c'est parce que c'est annoncé à des chrétiens. Il faut s'éloigner. Quand on parle de sanctifier, c'est d'arrêter les péchés. C'est ça, la sanctification. Vouloir vivre d'une manière de plus en plus comme le Seigneur le demande. Fait que quand on réalise, comme je disais au début de la réunion, on se fait enseigner la parole, c'est le renouvellement de notre intelligence. Là, on comprend la volonté de Dieu, puis là, on demande à Dieu de nous amener à pratiquer ça. Quand tu pratiques ça, tu marches dans la justice, dans l'intégrité, dans la droiture, dans la sanctification. Quand tu pratiques la parole, tu es en train de le vivre. Tu es en train d'aimer ton prochain. Il faut marcher dans ce chemin-là, frères et sœurs. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est annoncée, tous ces beaux versets-là qui nous parlent de tout ce sujet-là. Ce qu'on veut, Seigneur, c'est que ça puisse être gravé dans notre esprit, dans notre cœur. Qu'on puisse mettre en pratique ta parole. On veut pas s'éloigner de toi. On veut pas être un accès au diable. On veut pas que notre vie, notre âme soit détruite à cause de la cupidité. Apprends-nous à se contenter de ce qu'on a et délivre-nous du péché d'être un voleur. Nous voulons entrer dans ton royaume, Seigneur. Je demande pardon, Seigneur. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de te demander pardon. Je demande pardon, Seigneur, pour nos péchés et nos fraudes, puis nos vols, tout ce qui a le fait de dérober ou de tromper avec des fausses mesures. C'est tout ce qui était écrit. Pardonne ton peuple. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, délivre-nous des griffes du diable et conduis-nous dans ce chemin de la sanctification. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.